remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Remue-ménage 93.8 et pendant l'été nous vous proposons des rediffusions. Aujourd'hui nous vous proposons celle que nous avons réalisée le 25 novembre dernier pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ceci en direct de nos studios de Ferney. 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Partout dans le monde, on évoque ces violences qui trop souvent sont passées sous silence. Et dans Remue-ménage, nous avons eu envie d'évoquer cette journée particulièrement, d'autant plus qu'à Genève, pour la première fois, cette journée a été marquée particulièrement, entre autres, par la convocation d'une conférence de presse organisée par le collectif du 14 juin. Nous étions à cette conférence de presse, nous étions partie prenante en plus dans le collectif du 14 juin. Et Viviane que vous connaissez bien puisque c'est elle qui anime nos informels que nous retrouverons à 18h30, était à cette conférence de presse et a introduit le sujet et est avec nous ce soir. Nous avons aussi en notre compagnie Marie-Aimée Elie-Lucas qui est la coordinatrice du réseau des femmes vivant sous loi islamique. Ce réseau que le collectif du 14 juin a décidé en juin 1992 de soutenir comme deuxième étape, comme poursuite de la grève que nous avions organisée en 1991. Et puis, aussi présente avec nous, Johanna Pureau de Aspasie, association que nos auditrices connaissent aussi bien. Alors bonjour à toutes les trois. Viviane, je pense que tu pourrais peut-être commencer par nous dire comment le collectif du 14 juin a imaginé situer cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est la première fois qu'à Genève, on marque le coup, alors que depuis fort longtemps ailleurs, ça se fait déjà. Comment se fait-il, à ton avis, qu'on avait hésité à s'engager dans cette journée? Est-ce qu'il y avait si peu de quoi, de matière à évoquer à propos de cette journée?
Non, je ne crois pas. C'était une journée qui a été décidée, cette commémoration a été décidée il y a une dizaine d'années au premier congrès qui est l'Amérique du Sud qui a eu lieu à Bogota dans les années 82, je crois, qui a décidé donc d'organiser cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et en fait, la pratique politique est très forte en Amérique latine. Cette journée est commémorée de façon très importante. De là, c'est parti aux États-Unis, peut-être plus en Allemagne. En Suisse alémanique, ça fait déjà plusieurs années que cette journée est commémorée. Mais finalement, c'est très peu arrivé dans la pratique francophone. Je ne crois pas qu'en France, cette journée soit du tout marquée. Donc, c'est pour ça, je crois que c'est la première année qu'on décide de le faire. En fait, les autres années, on savait à peine que cette journée, qu'il y avait ce mouvement international. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est surtout que circule une pétition mondiale. Une pétition qui a été lancée par des Américaines qui demande à l'occasion de cette journée que les violences contre les femmes soient reconnues comme des violations, comme des abus aux droits de l'homme. Parce que effectivement, les droits de l'homme, même si de fait ils signalent les femmes, puisque aucune discrimination ne doit être faite aussi sur la base du sexe, ignorent totalement toutes ces violences qui sont commises sur les femmes. Donc nous avons décidé de répercuter ici à Genève cette pétition, de lancer aussi, de participer à ce mouvement de signature. Alors, cet enjeu est un enjeu de fait. Ça peut avoir l'air formel. Hein. Bon, c'est l'ONU, on va décider que voilà, ça, disons, il y a un aspect qui est un peu de pousser, d'essayer de piquer un peu cette espèce de masse un peu immense, parfois un peu amorphe de ces organisations internationales. Mais je crois que les enjeux autour de ce thème de la violence faite aux femmes et de le lier au droit de l'homme ou plutôt au droit de la personne, c'est un enjeu qui va nous toucher très concrètement à Genève. Et je crois que Johanna et Marie-Aimée en parleront plus par rapport à leur pratique. Alors, peut-être il faudrait. La première chose à dire, c'est. Bon, c'est dur de faire la liste des violences contre les femmes. C'est horrible parce que c'est vraiment une suite d'assassinats, même avant même que les femmes soient nées, puisqu'on sait que dans certains pays comme l'Inde ou la Chine, on pratique des avortements sur des fœtus de petites filles après examen prénatal. On sait que petites filles sont moins bien nourries, moins bien soignées. Donc, en fait, la violence sexiste tue. Concrètement, il y a vraiment des morts. Et puis, il y a toutes ces femmes battues, toutes ces femmes excisées, ces mariages forcés, la prostitution forcée, le viol, la violence dans les couples, les femmes qu'on brûle en Inde parce qu'elles n'ont pas payé la dot. Enfin, toutes ces violences monstrueuses. Alors, c'est terrible d'en parler, mais une des choses qu'on se rend compte, c'est que partout dans le monde, les femmes sont attaquées parce qu'elles sont des femmes. C'est vraiment, c'est une violence qui s'exerce en fonction du genre. C'est avant tout parce que ce sont des femmes que des violences s'exercent sur elles. En plus, certaines ont aussi une activité militante ou politique, et donc elles subissent aussi une répression politique, mais qui est toujours ou très souvent associée à des violences spécifiques. Et on le voit, il y a beaucoup de viols dans les prisons, dans les commissariats, dans les camps de réfugiés, etc.
Mais Viviane, il y a une chose qui pourtant semble importante à relever, c'est que très souvent, toutes les violences que tu viens d'évoquer, on les assimile à des violences privées et non pas à des violences d'État, comme par exemple, souvent on évoque la violence à l'égard des hommes. La torture, par exemple, est une chose qui est réprouvée et condamnée par un nombre important d'institutions et d'institutions comme par exemple Amnesty International, qui, elle, a eu de la peine à se mobiliser sur des problèmes de violence contre les femmes.
Oui, alors effectivement, c'est l'argument qui est donné pour ne pas inclure ces violences comme des abus au droit de la personne, c'est de dire que ce sont des violences privées ou des violences qui sont liées à un cadre culturel traditionnel qu'on ne peut pas changer, comme l'excision, par exemple. C'est une tradition, donc on ne peut pas. C'est pas vraiment une politique d'un État, d'un gouvernement. Alors, de fait, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, il y a des politiques de gouvernement qui sont violentes contre les femmes. On l'a vu, par exemple, avec la politique de Ceausescu en Roumanie, où les femmes étaient directement attaquées, donc, puisqu'on les forçait à porter une maternité, même si elles ne voulaient pas, avec des visites gynécologiques forcées, etc. Donc, c'était vraiment une violence d'État. Dans d'autres situations, si l'État n'intervient pas directement, du moins, il cautionne cette violence. Il la laisse faire. Et même s'il a des lois et un appareil législatif qui punirait cette violence, il ne l'utilise pas parce qu'il dit c'est de la violence privée, ça ne nous concerne pas, c'est la famille, etc. Alors qu'en fait, et je crois, Marie-Aimée, tu as un exemple très parlant de cette situation par rapport à la France.
Oui, c'est un cas que je vous ai cité récemment. Nous avons énormément de cas de mariage forcé dans l'immigration maghrébine, c'est-à-dire des filles qui sont soit venues en bas âge, soit éventuellement nées en immigration. Et les pères, quand elles arrivent à un certain âge, les retirent de l'école et les marient de force dans leur pays d'origine, dont souvent elles ne parlent même pas la langue, que parfois elles ne connaissent pas du tout. Et dans ces cas de mariage forcé, nous n'avons jamais l'aide des autorités françaises pour qu'il y ait une plainte contre le père ou bien qu'il y ait une recherche de la fille qui a été enlevée et expédiée au Maghreb. C'est très intéressant parce que chaque fois, nous arrivons à résoudre ces cas, nous arrivons à retrouver les femmes, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, mais les femmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie sont très actives pour les rechercher, les retrouver, trouver des avocates féministes pour les défendre et éventuellement faire annuler les mariages, on y est déjà arrivé. Mais par contre, du côté des autorités françaises, on nous dit très très régulièrement, mais nous ne pouvons pas intervenir dans une affaire pareille. Ça serait une ingérence dans les affaires d'un État souverain, notre voisin, etc. Et moi, je dis, bon, quand on enlève une fille, comme ça a été le cas que j'avais cité à Albi, dans le sud de la France, et qu'on me dit qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires de l'État algérien, je trouve ça absolument formidable, parce que quand il y a deux truands algériens qui se tirent dessus à Marseille, personne ne m'explique qu'il ne faut pas les punir selon la loi française, sous prétexte que c'est des Algériens et que ça serait intervenir dans les affaires d'un autre État. De la même façon, pour faire référence à ce que tu disais à propos de la tolérance vis-à-vis des cultures différentes, je suis tout à fait pour qu'il n'y ait pas d'ingérence des cultures occidentales dans d'autres cultures, mais je suis tout à fait intéressée à signaler que quand on applique la loi islamique de punition des voleurs en coupant la main des voleurs au Soudan, il y a un hurlement de la communauté internationale, c'est de la barbarie, il ne faut pas laisser faire et tout le monde intervient. Et quand dans le même pays on coupe le sexe des petites filles, ah, c'est leur culture, il ne faut pas y toucher, il y a une tolérance extraordinaire. Donc c'est vraiment une question dramatique, la différence qui est faite entre les droits de l'homme et ceux de la femme et qui ne sont pas intégrés aux droits de la personne.
Un autre cas aussi qui va dans le même sens, ça a été pendant la guerre entre le Bangladesh et le Pakistan, où pendant cette guerre, de nombreuses femmes ont été violées, comme dans toutes les guerres.
Des centaines de milliers. C'est un chiffre à l'échelle du continent indien.
Et en fait, ces femmes, non seulement étaient violées, mais ensuite risquaient au même. On couru la mort de la part des hommes de leur famille pour sauvegarder l'honneur familial. D'ailleurs, donc, il y a eu de nombreuses femmes qui ont été tuées ou d'autres qui ont vraiment risqué la mort. Et là, il y a eu effectivement une protestation internationale, mais en tout cas, c'est resté très du bout des lèvres et rien n'a été fait. Entre autres, on n'a jamais accordé ou proposé un statut de réfugié aux femmes, à ces femmes qui risquaient la mort.
Peut-être qu'on reviendra au problème du statut de réfugié pour les femmes, parce que je crois que c'est un problème vraiment en soi. Mais encore, Marie-Aimée, tu pourrais nous donner peut-être d'autres exemples que tu connais dans le cadre d'autres pays islamiques, donc tu es algérienne, précisons-le pour nos auditrices, de ces États qui, comme le disait Viviane, interdisent un certain nombre de choses, mais ne condamnent pas quand ça se produit. Tu donnais l'autre jour à la conférence de presse l'exemple de l'Irak où...
Oui, mais si tu permets, je vais commencer par rectifier. Il ne s'agit pas d'États islamiques, même si eux prétendent que ce sont des États islamiques. Oui. Ce sont des États musulmans. Je crois que sur le plan des concepts, il faut vraiment faire la différence entre l'islam, religion, utopie, ce que vous voulez, idéologie. Et il ne faut pas confondre un débat théologique, parce que je crois qu'on peut dire quand même qu'être musulman, enfin, croire en l'islam, ce n'est pas forcément être un fiefé réactionnaire et un fauteur de troubles par rapport aux femmes. Mais je crois qu'il faut vraiment dire que ce sont des États musulmans, c'est-à-dire ce que les hommes font. On parle de ce que les hommes font et non pas de la révélation divine. Donc si tu permets, c'est une précision importante. Je pense aussi. Oui, en Irak, je vous rappelle que Saddam Hussein a passé pendant des décennies pour un laïc, qui tenait absolument à ce que son pays ne soit pas un pays sous loi musulmane et qui néanmoins a été le bourreau de la gauche en Irak. Donc ce même Saddam Hussein a fait passer le 15 avril 90 un décret qui autorise les hommes à punir de mort les femmes adultères de leur famille, suite une liste tout à fait détaillée de quelles femmes et quelles relations de parenté. C'est-à-dire, ça peut être la nièce maternelle, enfin j'ai oublié la liste exactement, mais c'est extrêmement précis. C'est une liste d'une quinzaine de liens familiaux qui autorise l'homme à tuer la femme. Il n'est nullement question de prouver l'accusation. Et il est dit textuellement dans le décret que les hommes ne seront pas poursuivis en justice pour avoir pratiqué eux-mêmes la justice. Et donc nous disons que d'une part, ils prennent le rôle à la fois de juge et de bourreau par rapport aux femmes qui sont dans cette liste, de ces degrés de parenté, et que d'autre part, et c'est quelque chose que j'ai fait valoir à Amnesty International au moment où le réseau de femmes à l'intérieur d'Amnesty a été créé, c'est une véritable délégation de pouvoir de l'État, des organes de la justice de l'État à l'individu, au patriarche, et que donc c'est bel et bien l'autorité de l'État et la responsabilité de l'État qui est engagée quand une femme est tuée par un homme dans ces circonstances, et que donc Amnesty n'aurait même pas à élargir son mandat pour prendre en compte ces cas-là, puisqu'il s'agit bel et bien de la responsabilité de l'État déléguée par décret à des individus.
J'ai un autre exemple à donner, par exemple au Brésil, où apparemment la justice condamne, par exemple, les assassinats de femmes lorsque les maris les assassinent sous prétexte qu'elles ont des relations extérieures au couple, qu'elles les ont trompées. Mais dans les faits, ces hommes sont souvent reconnus innocents et le motif, c'est la légitime défense. Et ouvertement, plusieurs procès ont innocenté des hommes pour légitime défense, parce que l'honneur fait partie des choses comme étant légitime à défendre dans un pays comme le Brésil. Et ça, je crois que c'est assez grave aussi. Oui, Marie-Aimée ?
Oui, en Algérie, en 80 et 82, j'avais fait un recensement des cas de ces crimes d'honneur. Et pour avoir tué son épouse, éventuellement reconnaissant après que c'était sur des soupçons tout à fait erronés, les hommes étaient condamnés à des peines qui allaient au minimum de 6 mois, au maximum 2 ans. Mais 2 ans, c'est vraiment pas cher payer la peau d'une femme.
Alors Viviane, peut-être nous pourrions revenir maintenant au chapitre que tu as abordé tout à l'heure. C'est celui de ces femmes qui subissent des violences dans le cadre, par exemple, de conflits de guerre, comme les viols que tu as mis en évidence dans le cadre de la guerre au Bangladesh. On pourrait reparler de la situation de la Yougoslavie, dont on vient d'apprendre des faits absolument monstrueux aussi, et de constater que les femmes qui, dans ce type de situation ou dans le cadre de situations qui paraissent plus privées, comme celui des mariages forcés, etc., jamais elles ne réussissent à obtenir, ou à quelques rares exemples dont il sera important de parler ici, alors réussissent à obtenir un statut de réfugié dans nos pays.
Oui, effectivement, le statut du réfugié, c'est un très bon exemple des implications politiques et concrètes qu'aurait ce lien entre violence contre les femmes et abus aux droits de la personne. Si effectivement les violences contre les femmes étaient reconnues comme des violences politiques, même si elles se passent dans un cadre soi-disant privé, si on comprenait les fondements vraiment sociaux et politiques qui amènent à ces violences, c'est tellement généralisé parce qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où elle ne se pratique pas, eh bien, à ce moment-là, ça aurait des implications concrètes qui pourraient amener des amorces de solutions. Donc, c'est pour ça que je pense que l'enjeu de cette pétition réside là, c'est que si, effectivement, c'est reconnu, à ce moment-là, il en découle plusieurs points, et ces points pourront apporter en tout cas rendre visible cette violence, et à ce moment-là peut-être arriver à y faire face d'une façon justement moins individuelle. Donc, tu parlais des viols en Yougoslavie. Effectivement, il est sorti au début de ce mois dans la presse, dans le journal de Libération, un très long article qui fait état de milliers de viols en Yougoslavie des 3 factions, semble-t-il, bien que les femmes musulmanes semblent être principalement concernées. Et il semble bien que ça fasse partie du même plan de purification ethnique que les déplacements, que la terreur sur la population, que la guerre. C'est vraiment un acte de guerre. On fait peur aux femmes, on les terrorise et en ce sens-là, on les chasse. Et ces femmes subissent c'est vraiment des violences inouïes. L'article faisait état, je vous dis, de milliers de femmes violées, de petites filles violées, gardées pendant des semaines dans des espèces de bordels à la disposition et des soldats et des civils, parfois enceintes, qui doivent avorter, parfois qu'on ne laisse même pas avorter parce qu'il faut qu'elles accouchent de futurs soldats serbes. Donc des situations terribles. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que il semble, d'après comment le journal le rapporte, qu'un délégué du Haut Commissariat aux réfugiés sur place aurait dit « Ces crimes nous paraissent presque bénins face à aux horreurs qu'on voit autour de nous. » Alors bon, moi j'aime pas tellement faire une hiérarchie dans l'horreur, mais disons, comment peut-on dire que c'est bénin? C'est en fait dire « Allez-y, c'est pas grave finalement. Ça, vous pouvez pas le faire, mais ça, off. » C'est pas si grave finalement. Donc ça, en fait, ça perpétue cette situation alors que vraiment c'est un acte de guerre. Je crois qu'on peut pas en parler autrement qu'un acte de guerre.
Myriam ?
Oui, ce que j'ai entendu, pas directement, mais il y a eu un témoignage d'une femme à la conférence européenne des socialistes féministes qui s'est tenue en Belgique assez récemment et auquel assistaient un certain nombre d'amis qui ont donc entendu directement ce témoignage. Il semble qu'il soit vraiment question de mettre les femmes enceintes pour leur faire porter les futurs... la future race purifiée. Et il y a quelque chose de nazi là-dedans, bien que ça n'atteigne pas l'horreur des Lebensort en Allemagne nazie, mais il y a quand même quelque chose de terrifiant. Il semble qu'on les empêche de s'enfuir et d'avorter et qu'on ne les relâche que quand il est trop tard pour avorter. Alors, tu disais très justement que statistiquement, c'est la population des femmes musulmanes qui est principalement visée. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'horreur commise de ce côté-là. Je veux bien être claire là-dessus. Mais en nombre, c'est clair que c'est elles qui sont visées. Et ce qui, moi, me préoccupe énormément, c'est que parce qu'on ne fait rien, quand elles finissent par s'échapper, quand elles arrivent à Londres ou à Paris ou je ne sais où, qui est là pour leur tendre les bras? Ce sont les groupes fondamentalistes. Et le témoignage de la jeune femme qui avait été violée, qui était enceinte et qui était allée témoigner au Forum des socialistes féministes européennes, c'était qu'elle s'était en quelque sorte convertie à l'islam parce que c'était eux qui l'avaient accueillie. Et je pense que c'est tout à fait grave que nous ne fassions rien. Heureusement, le groupe Terre des Femmes en Allemagne a envoyé une mission d'investigation et on aura donc des renseignements de première main.
Oui, en plus, je pense que quand une femme a été violée, quand elle a subi des violences comme cela, si ce n'est pas reconnu socialement, c'est une deuxième violence. Je veux dire, la seule manière, à la fois individuellement et à la fois socialement, pour se sortir de là, c'est au moins que ça soit visible, que ça soit dit, que ça soit reconnu comme quelque chose de grave. Si on ne le reconnaît pas comme quelque chose d'incroyable, comme une torture, pour la femme, je pense qu'elle n'a aucun moyen de s'en sortir. Et socialement, il n'y a aucun moyen aussi d'arrêter ces violences. Bon, ben, ça fait partie, c'est normal. Et puis finalement, elle nous emmerde, ces bonnes femmes, au fond. Hein. Comme disait l'autre, les femmes font problème, toujours et toujours. Encore une fois. Donc, le fait de dire ce sont des abus aux droits de la personne, ce sont des tortures, je pense que c'est important et pour l'individu et pour toute la société.
Oui, et je crois que ce qu'on pourrait rajouter, c'est que heureusement, il y a un certain nombre de femmes. Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, Yana n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer beaucoup, mais on en reparlera tout à l'heure par rapport à la spécificité du monde de la prostitution concernée par l'association Aspasie à propos des femmes réfugiées qui arrivent en Suisse. Hein, je crois que ça, c'est important. Mais juste pour conclure sur ce que tu disais, Viviane, heureusement, il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont essayé de faire reconnaître par leur action qu'il y avait des faits qu'il fallait admettre comme étant nouveaux. Mmh. Ah. Oui. Par exemple, on pourrait citer le cas des femmes de mai en Argentine.
Effectivement. Alors, pour revenir Sur le problème des réfugiés, avant que tu signalais, c'est vrai qu'actuellement, le statut de réfugié n'est pas donné, ou très rarement, en tout cas, on connaît très peu de cas, n'est pas accordé à une femme qui viendrait ayant fui une violence sexuelle directe. Une femme qui fuit un mariage forcé, ou la prostitution forcée, ou l'excision, ou le voile, ou le viol, on ne donne pas de statut, on n'accorde pas de statut de réfugié. Et c'est tellement même inimaginable que je pense qu'il y a même des femmes qui ne le demandent pas. Ça ne vient même pas l'idée des femmes de le demander parce que c'est normal encore. Et en fait, je pense que ça changerait énormément de choses si le statut de réfugié introduisait ces éléments. Alors je sais qu'en Allemagne, des femmes se sont battues. Marie-Aimée, je crois que tu connais mieux le cas que moi.
Je voulais aussi dire qu'en Suisse, il y a un an et demi, on a obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, très exactement, pour une jeune femme marocaine qui était tombée enceinte et qui donc risquait de subir la violence de sa famille. Ce qui me paraît tout à fait important à signaler, puisqu'on est qu'on s'adresse aux femmes en Suisse. Le cas qui a été signalé par Terre des Femmes actuellement en Allemagne, je pense que c'est un merveilleux exemple de la façon dont les problèmes des femmes allemandes et des femmes d'ailleurs peuvent être liés et comment on peut voir que la solidarité internationale, c'est pas nord-sud, c'est pas de l'aide, c'est réciproque. Donc il s'agit d'une femme syrienne qui a fui les violences de son mari qui menace de la tuer actuellement si elle ne se soumet pas. Et qui a demandé, après un périple extraordinaire, elle est passée dans différents pays pour essayer de se sauver. Enfin, elle est actuellement en Allemagne, elle demande le statut de réfugiée. L'Allemagne ne veut pas le lui accorder. Et pour les Allemandes elles-mêmes, ça serait très important de réussir sur ce cas-là, parce que ça permettrait d'obliger le gouvernement allemand à considérer les violences dans la sphère privée comme des crimes qui doivent être punis par l'État allemand. Donc c'est vraiment faire d'une pierre deux coups, et en défendant une femme syrienne qui se trouve actuellement en Allemagne et qui demande le statut de réfugié, bon, d'une part on s'occupe de ce cas-là, ce qui est loin d'être inimportant, d'autre part on donne appui aux femmes sous loi musulmane qui n'ont aucun moyen de fuir leur mari légalement, qui ne peuvent généralement pas demander le divorce, seul l'homme peut le demander, donc c'est également très important. Troisièmement, on fait bouger les organisations internationales sur leur mandat et sur la définition de prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, réfugiés, etc. Et pour finir, on aide les femmes allemandes dans leur lutte à l'intérieur de leur nation pour promouvoir justement cette idée dont nous discutons actuellement.
Oui, alors ça, je crois que c'est extrêmement important de le constater. Hein. Je crois que c'est entre autres pour ça que la pétition qui est adressée à l'ONU, peut-être on peut juste donner quelques informations très précises. Cette pétition est actuellement distribuée et signée dans 105 pays différents, soutenue par une liste impressionnante d'associations de femmes. Il y en a tellement qu'on ne sait plus comment on va les mettre sur les feuilles lorsqu'on fait signer les pétitions. Traduite en 11 langues, et actuellement à peu près 140 000 signatures ont déjà été remises à l'ONU lors des différentes conférences préparatoires de la conférence principale qui aura lieu à Vienne au mois de juin 1993, donc pour reparler, révoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme encore pour l'instant, et qu'on espère qu'il s'appellera droit de la personne d'ici là. Et pétition qui va continuer à être signée jusqu'à ce mois de juin 1993. Entre-temps, toutes sortes d'auditions se font aux diverses sessions de la Commission des droits de l'homme. Des plaintes de femmes sont entendues de différents pays. Je crois qu'il va y avoir, Marie-Aimée, de nouvelles auditions.
Oui. Mais on essaye vraiment que ça soit mondial et universel. On n'a pas du tout envie qu'il y ait une catégorie de pays qui apparaisse comme spécialement monstrueuse et une autre, mettons l'Occident, spécialement tolérante et bonne par rapport aux femmes, parce que vraiment, c'est de tous les pays, de toutes les classes sociales, de tous les régimes politiques. On est seul face à ce problème.
Alors, je propose que pour ponctuer notre discussion, nous écoutions de la musique irlandaise. Les femmes irlandaises aujourd'hui doivent être très inquiètes de ce qui est en train de se décider dans leur pays. On vote sur un référendum concernant l'avortement, référendum qui semblerait accorde le droit de l'avortement dans une version extrêmement limitée au cas où la femme est en danger, au cas où, pour reprendre un cas qui s'était produit il y a quelques mois, où une jeune femme ou une femme aurait été violée. Les femmes sont très partagées. Certaines sont prêtes à voter non, tellement la loi est restrictive et ne vaut pas la peine d'être adoptée. Donc, en pensée avec les femmes irlandaises de la chanson irlandaise, et c'est Enya.